fois, hein, celui des peintres femmes. Vous rappelez que la fois dernière, j'avais d'abord fait un petit sondage pour savoir un peu quelles étaient les peintres femmes que vous connaissiez ou que vous appréciez. Et puis vous rappelez aussi que dans un second temps, après ce sondage-là, on avait eu l'occasion de se poser la question de savoir s'il existait ou non une peinture féminine, si la peinture femme avait des spécificités, des singularités particulières. Votre réponse avait d'ailleurs été plutôt non. Et d'ailleurs, elle avait été validée, si j'ose dire, par un diaporama que je vous avais passé après. Je vous avais inondé, n'est-ce pas, de quantité de vues, avec souvent des styles et des sujets assez similaires. Le tout était de voir quelle était la peinture homme, quelle était la peinture femme, et on avait vu que ben, finalement, décidément, il n'y avait aucun critère pour reconnaître l'un ou l'autre. Bref, la conclusion était décidément dans la séance de défrichage de la fois dernière qu'il y avait des peintres femmes, des peintres hommes, mais qu'il n'y avait pas une peinture masculine ou une peinture féminine. On s'en doutait assez, hein, mais enfin, on l'a démontré déjà la dernière fois. Ce qu'on a vu également, c'est que finalement, les artistes que vous connaissiez et que vous appréciez étaient plutôt des artistes assez près de nous. Hein. Vous rappelez que le XXe siècle, alors j'ai vraiment une liste nombreuse, hein, pour les périodes antérieures, le XIXe, le XVIIIe, bon, il y a quelques noms, et avant le XVIIIe, quasiment presque pas. Donc on va essayer durant ces séances de reprendre, de revoir un peu, de repasser toutes ces cartes et d'essayer de lisser un peu ce regard sur la peinture et les femmes peintres depuis, j'ai l'impression de dire les origines, hein, jusqu'à nos jours. Voilà donc le projet des quatre séances qui vont suivre. Alors, je voulais que nous commencions la séance, au-delà de nos petites règles que vous connaissez tous par cœur et que je ne vais pas rappeler, par une première partie en vous montrant pêle-mêle quelques représentations d'œuvres sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir. Alors là, la nuit va petit à petit tomber. Éventuellement, peut-être, vous pourriez baisser le rideau qui est là. C'est pas compliqué. Ça se fait avec la... Voilà. Vous tirez d'un côté. Voilà. Ça permettra, je pense, de faire un peu plus de noir et donc d'y voir un tout petit peu plus clair. Voilà. Parfait. Je vous passe donc quelques œuvres sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir. Je ne vous les commande pas pour l'instant, ni vous non plus. Enfin, si, vous allez les commenter dans un instant. Moi, je ne vais rien dire. Voilà, je vous les repasse. Voilà. Autoportrait. Donc, quelques œuvres, quelques peintures qui sont donc des autoportraits de femmes peintres. Alors, on peut évidemment essayer de deviner quels sont les noms de ces figures, peut-être difficile. On peut peut-être au moins deviner quelle est l'époque de ces figures et peut-être dans quelle partie d'Occident elles ont été réalisées. Ça, vous diriez que c'est quoi et quand ? Pays-Bas, plutôt Nord, en tout cas. Oui. Et on est quand ? 17. Donc, Nord, plutôt Pays-Bas, 17e siècle. Ça va à tout le monde, ça ? Et là ? Plutôt Sud ? Sud ? Et une idée d'un pays du Sud ? Italie. Ouais. Et on est quand ? Début 17e.
Du temps du Caravage.
Du temps du Caravage, donc début 17e. Ouais. Bon, ok. Et là ?
18.
On est où ?
France.
Hein. France 18e. Okay. C'est très curieux.
Venise.
On est où ? On est quand ? Venise ? Quelqu'un a d'autres idées ? Et la période ?
18.
18. Anglais, 18e. Anglais, c'est curieux, hein, effectivement. Tout ce qui est curieux est un peu anglais. C'est un anglophile qui vous le dit. Hein. C'est pour ça qu'on aime les Anglais, d'ailleurs. Donc, plutôt anglais 18e. Hein. Et la dernière œuvre. On est quand ? France, on est en France, une époque, 18e. Voilà, donc c'était les cinq peintures que je voulais vous montrer en début de cours. Alors bravo, hein, vous avez presque tout trouvé, si j'ose dire. Hein. Il y a un peu des hésitations sur notre fameuse toile anglaise. Vous allez voir que c'est bel et bien assez curieux, mais c'est pas vraiment anglais. Enfin bref, on va voir. Hein. Donc autrement, en gros, c'est parfait, hein, rien à redire. Sauf qu'il y a quand même quelque chose à redire. Mais avant de vous dire ce qu'il y a à redire, je voudrais quand même vous réinterroger. Est-ce que vous avez une idée ? Vous m'avez donc dit qu'il s'agissait toute une série d'autoportraits de peintres féminins. Est-ce que, éventuellement, vous en reconnaissez certaines ? Vous me disiez 17-18e siècle. Hein. Bon, selon le sondage la fois dernière, c'est pas forcément les 17 et 18e siècle, les périodes dans lesquelles vous aviez le plus d'artistes que vous connaissiez ou qui vous intéressaient, mais est-ce qu'éventuellement il y a quelques artistes que vous reconnaîtriez là, ou d'après le grand diaporama que je vous avais montré la dernière fois, est-ce que vraiment non, c'est le flou complet, comment est-ce que vous voyez ça? Le deuxième c'est ça, ce sera Artemisia Gentileschi, hein, la fameuse Artemisia dont on avait parlé la dernière fois. Donc décidément, bien un portrait italien. Hein, okay. On va voir, hein, mais c'est une idée, effectivement. Hein. Et les autres, est-ce que ça vous... Peut-être Madame Gérard, Marguerite Gérard.
Non, non.
Laquelle? Celle-ci.
Non,
la bleue, la bizarre bleue. Hein. Bon, pas d'idée, en fait, déjà pas mal, hein, mais pas d'autres idées. Non.
Il y aurait deux fois la même.
Deux fois la même. Vous pensiez auquel?
Le dernier. Avec les cheveux, ils sont bleus. Attendez, les cheveux blonds.
Les cheveux blonds.
Non, mais bon, je sais pas.
Celle-là?
Non, celle-ci.
Ces deux-là.
Bon.
Non.
Non,
je dis non, point d'interrogation. Hein. Bon, donc là, on est un peu plus dans le flou. Bien. Donc, je réitère ce que j'ai dit. Bravo, vous avez, à part pour la bizarre en bleu tout à l'heure, vous avez tout trouvé. Par contre, vous n'avez pas forcément trouvé, à part quelques noms éventuels, à identifier ces autoportraits. Et à vrai dire, c'est normal, parce que ces peintures ne sont pas des autoportraits. Donc c'est assez normal. Hein. Alors, si ce ne sont pas des autoportraits, qu'est-ce que c'est que ces œuvres que je viens de vous passer ? Pardon ?
Des portraits.
Autrement dit, des artistes autres, hommes ou femmes, hein, qui auraient fait un portrait de femmes artistes. Hein, on est d'accord. Hein. Sauf que c'est pas ça. Eh non. Enfin, quand je dis que c'est pas ça, c'est pas d'abord ça. Et c'est peut-être pas du tout ça. Vous allez me dire que là, vraiment, soit les vacances m'ont porté sur la tête, il est vrai que j'en ai pas pris, donc voilà. Soit, enfin je sais pas, mais il y a... Donc ce ne sont pas des autoportraits, et ce ne sont pas, ou pas d'abord, des portraits faits par des peintres X ou Y de femmes peintres. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Des mises en scène, c'est pas mal, vous disiez ? Des allégories, absolument. Tiens, ce que vous avez là, ces peintures que vous avez là, ne sont pas du tout des autoportraits, pas non plus des portraits de femmes peintres, ou pas d'abord des portraits de femmes peintres, mais des allégories. Ce sont des allégories qui représentent la peinture.
Alors, il y en a une autre qui,
Il y avait la sculpture probablement, et peut-être la il y avait un masque. Il y avait peut-être le théâtre.
Voilà, celle-là, la figure que vous avez là, a effectivement une palette, mais elle a une sculpture, mais elle a un masque. Donc c'est effectivement une allégorie de la peinture, mais qui, j'allais dire, intègre les autres arts à la peinture. On pourrait y voir une sorte d'allégorie des arts, mais on remarque que très souvent, alors je n'en ai passé qu'une là, parce que je ne savais pas toutes vous les passer, mais très souvent, les allégories de la peinture ont avec elles soit une sculpture, soit un masque. Hein, comme pour nous montrer d'ailleurs que la peinture n'est qu'une illusion. Vous savez, la fameuse chose sur laquelle on a déjà tellement parlé, Xoxy, c'est l'inverse. Hein, on en a déjà parlé X fois ici. Hein. Donc l'idée, effectivement, est souvent de doter la peinture d'attributs autres que ceux étroitement liés à la peinture. Autrement dit, ce que vous avez là, ce sont non pas des portraits, ou pas d'abord des portraits, parce que, après tout, peut-être qu'en faisant la peinture qui est là, l'artiste qui s'appelle Van Mieris a peut-être pris comme base quelqu'un, mais qui n'était pas forcément peintre. Vous voyez ce que je veux dire? Il a peut-être fait poser dans son atelier, sa cuisinière ou sa belle-sœur, hein, qui n'était pas forcément peintre. Vous voyez ce que je veux dire, hein. D'ailleurs, on peut être peintre et cuisinière, mais bon, voilà. Hein. Donc, en fait, ce que vous avez là, ce sont 5 allégories de la peinture. Alors, voyons quand même un peu quelles sont les légendes de ces différentes pièces, hein, pour que nous sachions de qui il s'agit. Ça, c'est une œuvre d'un artiste effectivement hollandais, vous aviez bien trouvé, hein, du XVIIe siècle, qui s'appelle Frans van Mieris. C'est toute une famille de peintres, là c'est van Mieris dit le vieux. Et c'est donc une allégorie de la peinture, on est au XVIIe siècle. Là, vous aviez bien trouvé, on est effectivement en Italie, bien vu, hein, on est effectivement dans quelque chose alors qui est un peu plus tard que véritablement Caravage. Vous savez que le caravagisme a fait florès jusqu'à la fin du XVIIe siècle, hein. On est tout à fait dans cette optique-là, dans aussi une allégorie de la peinture. Alors aussi, on peut penser que l'artiste qui l'a fait a fait poser quelqu'un. Mais encore une fois, l'idée n'était pas de faire le portrait de quelqu'un. On se sert éventuellement des traits de quelqu'un pour faire une allégorie. Hein. Ceux qui ont suivi l'atelier sur le portrait connaissent bien ce phénomène. Hein. Ça, vous aviez dit France 18e, vous aviez raison. C'est d'un artiste qui s'appelle Jean Raoult. C'est une allégorie de la peinture que d'ailleurs Raoult avait faite dans le cadre d'une série de peintures qui a présenté les allégories des arts. Ça, c'est l'allégorie de la peinture. Mais par exemple, il y a aussi une allégorie de la musique, que voilà, qui fait partie du même ensemble. Hein, chaque domaine artistique faisant l'objet d'une femme figurée de la sorte. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Mais il y a la musique, là.
L'arbre derrière, oui. Alors, ça revient, oui, vous n'avez même pas remarqué. Ça vient sans doute du même fait que ce qu'on a vu tout à l'heure pour celle qui tient une sculpture, un masque, etc. C'est l'idée de lier la musique aux autres arts. Hein, les allégories de la musique, de la peinture, peuvent être représentées avec des instruments picturaux seuls, mais souvent on les accoste de domaines évoquant d'autres disciplines artistiques. Comme si d'abord tous les arts étaient en un, mais aussi comme si la peinture était quelque part la reine des arts. Là, vous aviez dit que c'était étrange, et c'est vrai, c'est d'un artiste très curieux que pour ma part j'aime beaucoup, mais ça, c'est pas un problème. Enfin, on s'en fiche. Cet artiste est un artiste italien. Hein. Vous n'étiez pas trop loin, d'ailleurs, en parlant de Venise. On est à Bologne, je ne suis pas si loin. Et ce Crespi, d'ailleurs, connu une petite partie de sa carrière, il faudrait vérifier, mais à Venise, justement. En tout cas, on est là chez un artiste italien du 18e, un artiste très, très curieux, très singulier, hein, très... ça veut tout dire et rien dire, mais très moderne, entre guillemets. En tout cas, il y a une singularité très grande de cet artiste. Enfin, là, vous aviez bien trouvé, on est en France et au XVIIIe siècle. Et ce que vous voyez là, c'est une œuvre de Jean Restoux, également une allégorie de la peinture. Voilà, donc, voilà 5 allégories de la peinture. Ça s'intéresse par rapport au sujet qui est l'autre, et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'en début de cet atelier, je vous montre 5 œuvres qui présentent des allégories de la peinture? Quel est le lien entre ça et le thème qui nous occupe?
Et la peinture par des femmes.
Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez que dans l'art occidental, dans, j'allais dire, l'imaginaire mythique occidental, culturel, la peinture, c'est une femme. C'est pas rien. Hein. Les questions, mythiques, etc., nous habitent, même si on ne le veut pas, si j'ose dire. Hein. Donc vous voyez que, vraiment, la peinture, c'est une femme. C'est-à-dire que quand on se dit, oui, là, les peintres femmes, c'est un peu secondaire, etc., c'est d'autant moins vrai que la peinture, c'est justement une femme. Pour ma part, je ne connais pas d'allégorie représentant la peinture avec un homme. La peinture, c'est une femme. La peinture, c'est une femme.
Mais les muses sont féminines.
Pardon.
Les muses sont des femmes.
Et les muses sont des femmes. Hein, voilà. Alors, elles sont sous la houlette d'Apollon. Hein. Je vais quand même défendre les hommes, messieurs, il faut. Hein. Mais enfin bon, mais effectivement, les muses sont des femmes. Hein. Donc, la peinture, c'est une femme. Tiens, par parenthèse, puisqu'on est dans les questions de mythes et j'allais dire de vision comme ça originelle de la peinture, dans l'imaginaire occidental, dans la mythologie occidentale, quel est le mythe qui est à la base de l'origine de la peinture? C'est quoi l'origine de la peinture dans la mythologie, dans l'imaginaire gréco-romain, d'où nous sommes issus? Pardon? Eh ben voilà. Toujours le même. Hein, vous pouvez le rappeler peut-être? Voilà, oui.
C'est une femme qui dessine l'ombre.
Exactement. Hein. C'est toujours la même. Alors vous rappelez, on en a déjà parlé X fois. Hein. Le mythe qui est à l'origine aussi bien de l'invention du dessin que du portrait que de la peinture, c'est toujours le même, c'est celui-là. Alors, pour ceux qui n'auraient peut-être pas été là au monde des ateliers, soit portrait, soit dessin, je rappelle simplement en deux mots, vous rappelez comment s'appelle la personne
Dibutade.
Voilà, Dibutade. Hein.
Ou Butadès.
Ou Butadès, voilà. Alors, je raconte en deux mots l'histoire. Hein. Dibutade ou Butadès, on l'appelle de différentes manières, c'est la jeune femme que vous voyez là. Par parenthèse, dans certaines versions, on dit que Dibutade est non pas le nom de la jeune fille en question, mais du père de la jeune fille, qui était Potier et qui se serait appelé Dibutade. Alors, dans certains cas, on dit que c'est la fille de Dibutade, celle-ci, et dans d'autres cas, on dit que c'est elle qui s'appelle Dibutade. Hein. Je ne l'ai pas connue, c'était il y a des millénaires, je ne sais pas. Hein. Enfin, sachez qu'il y a les deux versions selon les sources que l'on regarde. En tout cas, l'histoire est toujours la même. Dibutade, appelons-la comme ça, est amoureuse d'un jeune homme. Le problème, c'est qu'il doit partir à la guerre. Comment garder l'image? Elle va trouver l'idée de le faire poser devant un mur et de mettre une lampe un peu plus loin pour permettre que l'ombre portée par la lampe sur le mur, que le profil de son amant, elle puisse ainsi le dessiner sur le mur et ainsi garder les traits de celui qui allait partir à la guerre pour peut-être ne jamais en revenir. Bien. Et c'est ce que vous voyez ici. Hein. Vous voyez qu'elle a fait placer le jeune guerrier ici et elle est en train de dessiner son profil sur le mur. Dieu merci, il y a l'amour, bien sûr, hein, qui est là, qui tient une lampe et qui lui permet de, par ce stratagème, dessiner le portrait de l'être aimé. Hein. Donc voilà ce mythe ultra célèbre hein, autrefois, qui est donc à l'origine de l'invention du dessin, mais également de l'invention du portrait. Et puisque le dessin et la peinture sont sœurs ou frères, ou je ne sais pas quoi, jumeaux et jumelles, hein, eh bien, la peinture a également comme origine mythique en Occident cette fameuse histoire de Dibutade. Hein. Autrement dit, c'est une femme qui a créé la peinture. Hein. Donc, que la peinture, c'est une femme personnifiée, et que l'origine de la peinture en Occident, c'est une femme. C'est pas rien. On l'oublie parfois, encore une fois, dans ce regard que l'on a sur la peinture et la femme en Occident. Par parenthèse, ce tableau est également une œuvre de Jean Raoult. On vient de voir une allégorie de la peinture par lui, vous savez. Hein, je vous ai montré l'allégorie de la peinture et de la musique également, du H de Raoult. Eh bien, Raoult a fait le tableau, vous voyez là, avec Dibutade, qui dessine le portrait de son amant. Bien. Ça, c'était pour poser les choses. Maintenant, je voudrais, dans une deuxième partie, vous fait réagir devant ça. Romain. Ouais. Fresque ou peinture murale, en tout cas. Hein. Vous savez que quand on regarde pas de près, c'est difficile de dire fresque. Hein. La fresque, c'est un type de peinture murale qui correspond à des questions techniques bien spécifiques. Alors, quand on voit une photo et que c'est un peu dur à dire, vaut mieux dire peinture murale, on n'est pas sûr de se tromper. Les fresques sont des peintures murales, mais toutes les peintures murales ne sont pas des fresques. Hein, d'accord ? Donc, il vaut mieux dire peinture murale, nous sommes sûrs de ne pas se mourir. Donc, c'est une peinture murale. Hein. Il est possible que ce soit une fresque, mais c'est une peinture murale, ça c'est sûr. Vous avez dit que c'était de quand, ça ?
Romain,
effectivement. Hein. Oh, vous avez même une idée de l'endroit où ça a pu être découvert.
Oui.
Bah, voilà. Ça, c'est une peinture romaine de Pompéi. Et pourquoi est-ce que je vous passe une vue de cette peinture ? Ben voilà. Parce qu'elle représente une femme peintre. Hein. Vous la voyez, hein ? Bon, c'est une peinture romaine, ça a plus de 2000 ans. Alors, commence à être un peu usée. D'accord, hein. Enfin, vous voyez une femme. Et puis devant elle, il y a un tableau, elle est en train de peindre le tableau. On est là devant une femme peintre. Vous en voulez encore ? Eh bien, voilà une deuxième. Autre peinture murale, également pompéenne, pompéienne. Et vous y voyez une femme. Elle a même à sa droite, vous voyez, sur une sorte de fût de colonne qui est posé par terre. Elle a une petite boîte avec ses pinceaux, ce sera comme aujourd'hui. Hein. Et vous voyez qu'il y a devant elle, d'une part, une statue que visiblement elle s'apprête ou elle va continuer à peindre. Mais devant elle, vous voyez qu'un petit amour est en train de poser un tableau, hein, une toile qu'elle a sans doute réalisée. Hein. Alors tout ça, qu'est-ce que ça vous suggère ? Pourquoi est-ce que je vous passe ces deux vues-là ?
C'est les premiers pas.
Voilà. Voilà. C'est effectivement en Occident, hein, les plus anciens témoignages qu'on ait de la présence de femmes peintres. Hein, parce que si on a présenté ça à Pompéi, bah, c'est vraisemblablement parce qu'on pouvait voir dans les rues de Pompéi des femmes peintres. Donc on les représentait. Hein. Alors, quel est le nom de ces femmes ? Grâce à ça, on n'en sait rien. Mais, dans l'iconographie, ces deux pièces que vous voyez là sont parmi les tout premiers témoignages que l'on ait en Occident de la réalité de femmes peintres. Hein, dans cette peinture-ci et dans l'autre que je vous remontre, mais légendée. Hein. Voilà. Et quid de ça ?
Ça, c'est une religieuse qui peint. C'est dans un couvent.
Alors, vous y voyez une religieuse dans un couvent.
Peut-être.
Et notre religieuse, elle fait quoi ?
Elle
peint. Et vous dateriez cette image de quand ?
Moyen-Âge.
13e.
Voilà, fin du Moyen-Âge ? Non, un petit peu avant.
Un peu avant. 13-14e.
13-14e. Vous plutôt 15e, plutôt fin 15e. Donc on est entre 13 et 16e. Hein. Bon, deuxième partie du Moyen-Âge. Hein. Le Moyen-Âge, ça commence au 5e siècle après Jésus-Christ. Hein. Alors on date la marge. Hein. Enfin, on est plutôt dans la deuxième partie du Moyen-Âge.
Quel format ?
Pardon ?
Quel format ?
Disons que la peinture a ce format-là.
Hein. Ah bon ?
Voilà. Mais il y a un mais que je ne peux pas vous dire tout de suite. Alors, pas de la peinture, non. Parce que vous voyez d'ailleurs qu'il y a une marge tout autour, et là je ne l'ai pas coupée. Pour une fois. Non. Pour une fois, je n'ai rien coupé. C'est rare. Hein. Voilà. Alors, voilà effectivement une représentation d'une femme peintre de la fin du Moyen-Âge. Et ça.
Ah oui, mais il y a des instruments de sculpteurs.
Moyen-Âge aussi. Oui. Alors, effectivement, on est devant, là aussi, la représentation d'une femme peintre. Qu'est-ce qu'elle fait, d'ailleurs, là ?
Son portrait.
Oui, exactement. Hein, c'est une femme qui est en train de faire son portrait. Qu'est-ce qui vous montre, d'ailleurs, qu'elle est en train de faire son portrait ?
Un miroir.
Voilà. Hein. Elle a un miroir à côté d'elle, donc elle regarde dans le miroir et elle fait son portrait. Elle fait un autoportrait. Hein. Et là, en effet, tout son petit attirail. Comme vous dites, il y a un attirail qui fait penser à autre chose que l'attirail stricto sensu oui. du peintre. Hein. Alors, il est vrai que quand on est un peintre, il faut faire ses couleurs, il faut les broyer. Hein. On achète des pigments qui sont minéraux. Hein. Donc, il faut taper dessus, il faut un marteau, il faut une meule pour broyer, enfin, broyeur. Pour broyer tout ça, c'est du boulot. Hein. Et on voit bien le petit établi. Mais il y a des instruments qui semblent bien être des instruments qui ne sont pas, en tout cas, réservés aux peintres, qui sont même peut-être ceux du sculpteur ou de la sculptrice.
Et ce ne serait pas une enluminure, ça ?
Ah, effectivement. Bien possible, ça.
Ah, mais non, mais c'est...
Et quid de ça ?
peinture murale.
Voilà, hein, une femme qui est en train de faire une peinture murale. Hein. Cette peinture, vous voyez là, comme la précédente, vous les dateriez, hein, je vous repasse la précédente une seconde, qui est assez mignonne d'ailleurs, vous dateriez ça de quand ?
13e
Moyen-Âge, oui. 13e, 14e, enfin, on est dans les mêmes eaux pour les trois places finalement. Hein. On hésite entre le 13e, entre le 13 et 16e, enfin on est là-dessus. Bien. Donc, je résume, hein, ces trois peintures sont des peintures qui représentent des femmes peignant. On a quand même remarqué que parfois elles avaient un petit matériel qui ne se limitait pas absolument totalement à l'art de la peinture. On est d'accord. Et vous avez donc dit qu'il s'agissait bien de peinture, plutôt de la fin du Moyen-Âge, 13-16e. Hein, j'ai à peu près récolté toutes ces dates auprès de vous. Et donc, le support de ces peintures, ce serait quoi, effectivement ? Voilà, hein, vous aviez effectivement les unes et les autres trouvées. C'est effectivement du papier ou plutôt du parchemin. Hein, et ce sont des enluminures, effectivement. Donc ce que j'ai coupé là, c'est pas les peintures, c'est le texte qu'il y a autour. Ah. Donc ce sont bel et bien des enluminures. Donc tout ça, c'est parfait. Et donc ces enluminures, elles représentent quoi ?
Des femmes
peintres. Qui faisaient leur travail à quel moment ? Au Moyen-Âge. Donc on a là des représentations de femmes peintres au Moyen-Âge. Eh bien non. Ce sont certes des femmes peintres, mais ces femmes peintres représentées ne sont pas des femmes peintres du Moyen-Âge. Certes, ces miniatures datent du Moyen-Âge. Et votre fourchette chronologique était juste. Mais je le raboterai un peu des deux bouts. Hein. Ce que vous voyez là date plutôt, les trois enluminures que je vous ai passées, plutôt du 15e siècle, entre le début du 15e et l'extrême fin du 15e, que d'après ou d'avant. Hein. Mais enfin bon, on est bel et bien à la fin du Moyen-Âge, des miniatures datant du début jusqu'à la fin du 15e. Mais les figures représentées, qui sont des femmes peintres, ne sont pas des femmes peintres médiévales. De quoi peut-il s'agir ? Pardon ? Alors, quand vous dites copie, ça veut dire quoi ? Copie d'après quoi ? D'après d'autres peintres. C'est-à-dire qu'on aurait des artistes qui, dans ces miniatures, ont copié d'autres peintures d'autres peintres. Non. C'est pas vraiment ça. De quoi peut-il s'agir ? Des gens qui, dans leur loisir, Non. Ce ne sont pas des femmes médiévales qui ne sont pas peintres professionnelles, mais qui, dans le cadre de leur hobby, si j'ose dire, hein, font de la peinture. C'est pas ça non plus.
C'est religieux, c'est presque la Vierge qui peint l'enfant.
Ah, alors donc il y aurait une dimension religieuse, effectivement, avec là, la Vierge peignant l'enfant Jésus.
Mais pas le
portrait. Voilà, celui-là, oui, peut-être pas les autres, effectivement, mais là, on aurait peut-être une dimension religieuse, hein, la Vierge peignant l'enfant Jésus, parce qu'effectivement, elle a un peu l'air d'une Vierge, et le gosse qui est en train de peindre fait penser à l'enfant Jésus. Eh bien, c'est pas ça non plus. Mais c'était une idée, parce qu'au Moyen-Âge, la religion est toujours très présente, effectivement. Hein. On pourrait se demander, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Alors, les figures que vous avez là représentent bien des professionnels. Donc, les personnages que vous avez là sont bel et bien des représentations de professionnels. Mais, je répète, hein, ce que vous voyez là ne sont pas des représentations de femmes peintres médiévales. Et pourtant, ce sont des professionnels. Vous allez me dire que vraiment, les vacances ne me réussissent pas, mais pourtant... Pardon ?
C'est pas l'Antiquité.
Ah ? Vous avez entendu ?
Non.
Répétez.
C'est-à-dire qu'avant le Moyen-Âge, je ne vois guère que l'Antiquité.
Et alors ?
Je ne comprends pas.
Ah, c'est bien pour ça que je remue un peu le couteau dans la plaie. Je ne sais pas, est-ce que cette idée-là titillerait quelqu'un ? Hein, vous avez dit, c'est quand même pas l'Antiquité.
Ils auraient copié des...
Évoqué des passages de la Bible.
Voilà.
Alors, effectivement, ce que vous avez là, les peintures de manuscrits que je viens de vous montrer, ces enluminures, représentent des femmes peintres, mais des femmes peintres de l'Antiquité, qui ont été représentées au Moyen-Âge. D'accord ? C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on a représenté un certain nombre de femmes peintres de l'Antiquité. Est-ce que vous avez une idée de textes qui, au Moyen-Âge, ont pu faire connaître des femmes peintres de l'Antiquité ? Est-ce que vous savez, pour être plus simple encore, quel est le grand texte antique qui parle de peinture ? Pardon ? Il y a un texte antique très très important, qui est très important parce qu'il parle de quantité de choses, et notamment, il parle de la peinture antique. Si on veut connaître la peinture antique, qui a quasi entièrement disparu, hein, à part quelques découvertes ici et là, ou bien sûr, quelques sites comme Pompéi, mais qui est un site tardif après tout, hein, si on veut savoir quelle était la peinture au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, difficile de voir des œuvres originales. Hein. Si on veut savoir, si on veut s'en approcher, il y a un ouvrage, est-ce que vous savez ce que c'est ?
Un romain ?
Pardon ?
C'est un romain ou un...
Un romain.
C'est Pline.
Pline. C'est Pline. Alors, il y a effectivement d'autres artistes, Hérodote peut donner des éléments par exemple, mais le grand texte c'est Pline. Pline a écrit une histoire naturelle, et il y a un livre, je crois que c'est le livre 9, mais je me trompe peut-être, de l'histoire naturelle de Pline, où Pline parle de peinture. Hein, et où il parle de la peinture antique, notamment de la peinture dans la Grèce antique. Et c'est un ouvrage très très important, parce que ça nous donne les noms, mais aussi, j'allais dire, un certain nombre d'indications sur des œuvres, sur des styles d'artistes. Hein. Et il se trouve que Pline évoque toute une série de peintres femmes. Et qu'au Moyen-Âge, il y a quelques écrivains médiévaux qui se sont intéressés à ça et qui, en lisant Pline, ont à leur tour écrit des choses sur les peintres, et notamment sur les femmes peintres. Par exemple, on va légender un peu tout ça, cette miniature que vous voyez là, hein, qui représente cette femme, alors qui n'est pas une sœur, n'est pas une nonne. Hein. En fait, cette femme que vous voyez là, elle s'appelle Timarette. Timarette, c'est une femme peintre qui est évoquée par Pline, mais il se trouve que Boccace, vous connaissez Boccace, hein, va écrire à la fin du Moyen-Âge un ouvrage, il en a écrit pas mal, hein, mais il y en a un, alors qu'on... traduit le titre de différentes manières, mais notamment, l'une des manières les plus fréquentes, c'est « des claires et nobles femmes hein. ». Vous pourrez trouver quelquefois des illustres et nobles femmes ou des claires et illustres femmes, ça dépend bien. Et dans cet ouvrage, Boccace évoque une centaine, un peu plus d'ailleurs, de femmes illustres. Et là-dedans, il parle de trois femmes peintres illustres de l'Antiquité. L'une d'elles, c'est Timarette, ce que vous voyez là. Hein. Alors, ce que vous voyez là, c'est une miniature faite, vous le voyez, à la fin du XVe siècle, hein, c'était bien la date d'ailleurs que vous le disiez, fin XVe siècle, représentant Timarette. Il se trouve que Timarette, Pline en parle, parce qu'elle avait peint pour le temple de Diane à Éphèse. Vous connaissez la ville d'Éphèse, hein, dans l'actuelle Turquie, où se trouvait une des sept merveilles du monde, hein, le temple d'Artémis, le temple de Diane. Eh bien, Timarette avait peint pour le sanctuaire d'Artémis à Éphèse une peinture figurant Diane. Hein. Et pour peindre une peinture figurant Diane pour le stand d'Éphèse, fallait avoir une certaine importance. Hein. Donc ça veut dire que cette Timarette dont nous parle Pline, dont nous reparle Boccace, était une femme importante pour qu'on la laisse faire une peinture représentant Artémis pour le temple d'Éphèse. D'accord hein. Et vous voyez que dans cette version de cet ouvrage de Boccace, l'enlumineur a décidé de représenter Timarette de la manière que vous voyez là. Hein. Mmh. Timarette, on n'a plus rien d'elle, évidemment. Hein. Plus rien d'original, en tout cas. Hein. Mais Boccace, après Pline, a fantasmé cette Timarette auteur de cette peinture d'Éphèse. D'ailleurs, dans d'autres manuscrits, vous voyez là un autre manuscrit, une autre version de l'ouvrage de Boccace, hein, il y en a toute une série des versions de cet ouvrage de Boccace, qui représente à nouveau Timarette peignant une image de Diane.
Elle a le même menton que dans le tableau.
Tout à fait, parce que cette miniature que vous voyez là fait partie de la même version de l'ouvrage de Boccace que la femme peignant la peinture murale de tout à l'heure. Hein. C'est exactement le même bouquin, on va la revoir. Hein, voilà, absolument. Alors, il y a une autre peintresse importante chez Pline, donc importante chez Boccace, d'accord ? C'est celle-ci, qui s'appelle Laïa. Laïa de Cyzique, parce qu'elle est originaire de cette ville de Cyzique, est considérée comme très importante. Elle était dans l'Antiquité très réputée, notamment pour faire des portraits, et on cite d'elle, Pline cite d'elle, plusieurs autoportraits, hein. C'est une femme qui était très connue dans l'Antiquité pour cela. Et bien entendu, puisque Pline en parle comme ça, que Boccace en parle comme ça, comme auteur de portraits et d'autoportraits, et bien les gens qui ont illustré l'ouvrage de Boccace représentent Laïa en train de s'autoportraiturer. Donc Laïa est la deuxième figure de ces peintres féminins d'Occident, si vous voulez, célèbres. On n'en a plus rien, mais on la connaît. Parce que Pline et derrière lui Boccace en ont parlé. Et qu'elle est illustrée, elle est fantasmée, pourrait-on dire, dans un certain nombre d'ouvrages. Voilà d'ailleurs une autre version du même ouvrage de Boccace, où vous voyez à nouveau Laïa de Cyzique. Et puis il y en a une troisième. Alors oui, pardon, je vous montre ça. Ça, c'est une miniature tirée du même bouquin que la miniature que je vous ai montrée tout à l'heure, avec la femme peignant qui ressemble à une nonne, vous vous rappelez, hein, c'est le même style, vous voyez, c'est le même artiste, Robinet Tétard. Vous savez que Robinet est un prénom au Moyen-Âge, moi ça m'a toujours fait rigoler. Au Moyen-Âge, on peut s'appeler Robinet. Hein. Voilà, pensez-y pour vos héritiers, c'est pas, hein, Robinet. Hein. Voilà, absolument, exactement.
Il est gauchère. Voilà.
Et donc, Robinet Tétard a illustré cet exemplaire des claires et nobles femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que Laïa, cette Laïa de Cyzique que je vous ai montrée, célèbre pour faire ses autoportraits, parfois, on l'appelle plus Laïa, mais Marcia, mais il semble que ce soit la même. Hein. Et là, vous voyez que dans cet ouvrage de Boccace, Laïa Marcia, hein, parce que dans certaines graphies, le L-A-I devient plus ou moins M, enfin, il y a eu visiblement des problèmes, des recopiages, si vous voulez. Et on sait que cette Marcia, ou cette Laïa, était peintre et sculpteur. D'ailleurs, rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu qu'elle avait des instruments de sculpture à côté d'elle, vous l'avez remarqué. Hein, hein. Donc vous voyez que ça nous montre aussi qu'on peut être artiste, mais on peut avoir aussi plusieurs cordes à son arc. Hein. Un peintre peut être sculpteur, et un sculpteur peut être peintre, et ainsi de suite. Hein. Et donc là, vous voyez que cette Laïa Marcia, dirons-nous, hein, elle fait son autoportrait, mais non plus en peinture, mais en sculpture. D'accord ? Enfin, dernier artiste célèbre, vous l'avez, n'est-ce pas, vu tout à l'heure, ce dernier artiste célébré par Pline et par Boccace, elle s'appelle cette fois Irène. Irène était une artiste originaire d'Athènes. Elle était d'ailleurs la fille d'un peintre, qui s'appelait, un peintre assez célèbre en son temps, qui s'appelait Cratinus, pas Crétinus, hein, Cratinus. Hein. Et donc Irène est la fille de Cratinus, et elle était, elle, célèbre, en particulier pour ses peintures murales. Hein. Donc, dans Pline et dans Boccace, on la célèbre de cette manière. Vous la voyez là, hein, en train de faire une peinture murale, et la voilà ici, toujours par notre cher Robinet, hein, toujours le même, hein, qui, ici, est en train de réaliser une peinture murale. D'accord ? Donc, vous voyez, Laïa, Marcia, comme vous le voulez, Timarette et Irène sont trois femmes peintres de l'Antiquité dont on n'a plus rien, mais qui sont malgré tout célèbres, hein, célèbres du moins dans l'univers pictural, hein, mais on n'a plus rien parce qu'elles ont été mises en mots, je dirais, à la fois par Pline et par Boccace. Elles font partie de cette espèce de tréfonds qu'on ne connaît souvent pas du tout, hein, nous autres, hein, mais qui est important parce qu'ils fondent cette sorte de, entre guillemets, légitimité, si on avait besoin, hein, de la peinture femme. En gros, il y a toujours eu des peintres femmes. N'y voyons pas une invention un peu récente de révolutionnaires occidentaux un peu égarés à la fin du XVIIIe. Hein, non, il y a toujours eu des peintres femmes dès l'Antiquité, puisque dès le 5e siècle avant notre ère, au moins, on en a des témoignages. Et pas dans des lieux secondaires,
nous l'avons plus. Dans les préhistoriques, les mains petites, c'était peut-être des femmes qui se les mettaient.
Alors ça, là, c'est... qui sait, peut-être. Mais là, évidemment, on n'a aucun élément tangible. Hein. Mais on peut se poser la question, effectivement. C'est vrai. Petit détail pour vous dire que ces peintres femmes antiques, on va les célébrer longtemps. Je vous montre là un détail d'une peinture de Michel Corneille le Jeune, qui est à Versailles, château, et qui représente justement l'Ayat Sisyphe. Donc l'une de ces artistes que je viens de vous montrer, qui est en train ici de peindre. Donc vous voyez que cette redécouverte de la peinture antique féminine et pas simplement une sorte d'élucubration médiévale, ça a figuré bien après. Vous voyez qu'encore, à l'orée du XVIIIe siècle, on a des peintres qui célèbrent, et là un peintre homme, qui célèbre la féminité de la peinture. Donc ce n'est pas une sorte d'épiphénomène un peu vieillot, archaïque et ne correspondant à rien. Troisième petit chapitre. Vous vous rappelez que la dernière fois, je vous ai passé un certain nombre de vues d'un certain nombre d'artistes. J'ai pensé que pour les périodes, au moins pour les périodes anciennes...
Un petit problème de date.
Oh pardon, oui, c'est 16e, 17e siècle. J'ai oublié. 16e, 17e, il faut que je le rajoute. La dernière fois, donc, je vous ai passé pas mal de vues. Volontairement, je ne les avais pas légendées parce que je vous avais dit qu'on reviendrait dessus. Vous m'avez d'ailleurs dit, dans le petit sondage que j'avais fait précédemment, vous m'aviez indiqué un certain nombre d'artistes femmes. J'ai pensé que pour ces périodes anciennes, qui ne sont pas les plus simples, on allait faire, entre guillemets, didactique ce soir. Et je vous propose, puisque vous l'aurez compris, cette séance-là a pour but d'essayer de voir quelles sont les origines des peintres femmes en Occident. On a dit ce qu'on pouvait dire sur l'Antiquité. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va parler du XVIe et XVIIe siècle. Sachant que pour le Moyen-Âge, à part ce que je vous ai montré, mais qui est la représentation, non pas de peintres médiévaux, mais de peintres antiques représentés au Moyen-Âge, qui n'est pas pareil, on connaît presque rien sur les peintres femmes médiévales. Il y en avait. Parce qu'après tout, si on nous en représente chez Boccace, c'est sans doute parce qu'il y en avait. Mais, encore une fois, on sait très peu de choses. En revanche, à partir du XVIe siècle, oui. Est-ce que vous vous rappelez de quelques artistes peintres femmes italiennes des XVIe et XVIIe siècles que nous avons pu évoquer la fois dernière? Est-ce que vous vous rappelez de quelques noms? Alors, Artemisia, son nom, c'est quoi? Gentileschi. Artemisia Gentileschi. C'est vrai qu'on l'appelle souvent Artemisia, ça c'est une chose italienne. On ne s'encombre pas du nom. Artemisia Gentileschi, oui, absolument. Vous en avez d'autres? Sophronisba. Sophronisba Anguissola, absolument. Ah, la Tintoretta, la fille de Tintoret, ça c'est charmant, bien sûr, oui, tout à fait. Bien. Donc effectivement, on avait parlé la fois dernière de Sophronisba. Sophronisba, vous vous rappelez, on en avait dit un mot, je vous avais montré des choses. On avait parlé de Marietta Robusti, c'est la fille de Robusti, c'est-à-dire de Tintoret. Tintoretta, c'est celle-là. On avait parlé de Artemisia Gentileschi, que je n'ai pas mis là parce qu'on terminera par elle tout à l'heure. Artemisia Gentileschi, c'est un peu le gros morceau de la peinture de femmes en Europe au XVIIe. Alors on va lui faire une petite place spéciale. Mais je vous ai parlé aussi la dernière fois d'une femme qui s'appelle Lavinia Fontana, et d'une autre qui s'appelle Elisabetta Cirani. En femme, ça je vous en ai pas parlé, il y a une autre peintre femme importante dans l'Italie de cette période, précisément au XVIIe siècle, qui s'appelle Giovanna Garzoni. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, on a des noms très bien, mais ces noms, ils correspondent à quoi? Alors, je vais vous montrer une peinture de chaque artiste. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que pour la plupart de ces artistes, on a leurs autoportraits. Alors là, ce n'est pas le piège que je vous ai tendu au début de cette séance. Ce que je vais vous montrer, ce sont bien des autoportraits. Et l'intérêt, c'est que les autoportraits de Anguissola, Fontana, Robusti, Cirani, que je vais vous montrer, sont absolument représentatifs du style de ces auteurs. D'accord? Ce qui fait que tout à l'heure, je vais vous passer un petit mixte d'un certain nombre de peintures, et ce sera à vous de retrouver quels sont les auteurs. Hein. C'est vrai, en histoire de l'art, ce qui est important, c'est d'avoir des tas de choses dans les yeux. Hein. Il faut avoir des images, des images, des images, des images. C'est à partir de ça qu'on se fait le regard. Hein. Et donc, tout à l'heure, dans une série d'œuvres, on va essayer de retrouver quels sont les auteurs, mais aussi de caractériser la manière, le style, pourrait-on dire, hein, de ces différents auteurs. Alors, je vous montre d'abord une œuvre, souvent des autoportraits, de ces cinq femmes artistes. Voilà Sophonisba Anguissola, hein. Un autoportrait d'elle, très typique. Vous l'avez bien emmagasiné ?
Oui.
C'est bon ? Reconnaissable entre toutes ? Hein, Sophonisba Anguissola. Lavinia Fontane. C'est bon ? Notre Tintoretta, hein ? Marietta Robusti.
Elle était musicienne aussi ?
Alors, c'est un petit peu. Alors, il se trouve que oui, en plus, hein, et l'autre aussi d'ailleurs. Ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. La musique, souvent, est liée à d'autres arts. Hein. Donc, on peut être peintre, mais se faire représenter à un pianoforte ou un clavicorde, dans l'occurrence, je pense que c'est un clavicorde. Enfin, voilà. Hein. Mais il est vrai que souvent, un art marche avec un autre. On a vu d'ailleurs que dès l'Antiquité, il y avait des femmes peintres qui étaient en même temps sculpteurs. C'est bon pour Marietta ? Voilà Giovanna Garzoni, hein, une œuvre très typique d'elle. Je n'ai pas d'autoportrait à vous proposer.
C'est un autoportrait.
Pardon ?
C'est un autoportrait aussi. Hein.
D'une certaine manière. Et enfin, Elisabetta Sirani. C'est bon ? On est bon pour nos italiennes ? Bien. Mais allons vers la Flandre et l'Hollande. Eh oui, parce qu'on va mélanger un peu tout dans le petit diaporama tout à l'heure. Vous pensiez quand même pas que j'allais vous laisser simplement avec l'Italie. Hein, vous me connaissez. Hein. Il faut pimenter un peu la chose. Bien. Donc, Flandre et Hollande. Est-ce que vous vous souvenez de quelques artistes, femmes, hein, bien sûr, il n'y a que ça qui nous intéresse ici, flamandes ou hollandaises, des 16e ou 17e siècle? Oui, absolument. Judith Leicester. On n'en avait pas cité des quantités. Hein. Je ne sais plus ce qu'on avait d'ailleurs cité à l'endroit de... Oui, c'était la seule que vous aviez vraiment citée d'ailleurs. Alors, je vous montre la petite liste. En fait, il n'y en avait pas des milliers. Hein. Il y avait Judith Leicester. Il y avait aussi une femme qui s'appelle Clara Peters. Et puis enfin, mais ça je ne vous en ai pas parlé, il y a Katharina von Hemmersen. Katharina von Hemmersen, et je vais vous montrer une œuvre de chacune, qui sont là aussi des autoportraits. Qu'est-ce qui fait que ces femmes, au 16e, 17e, elles n'arrêtent pas de se représenter ?
Pardon ?
Oui, mais est-ce que c'est que ça ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de photo. Donc, si on veut avoir ses traits, il n'y a pas de solution que de faire un portrait.
C'est pas de modèle.
Se faire connaître, c'est une manière, effectivement, de montrer sa présence.
Oui, parce qu'elles ont fait d'autres tableaux, quand même.
Aussi, ça montre, effectivement, ça va nous servir, vous allez voir. Ces portraits, ils ont un style qui va, je pense, nous permettre de reconnaître les manières tout à l'heure. Oui, vous disiez, pardon.
Je disais qu'elles ont fait d'autres tableaux aussi.
Oui, absolument.
Il faudrait qu'on en voit d'autres.
Ah oui, ah, tout à fait. Mais on peut quand même peut-être être surpris. Par exemple, Sophonisba Anguissola, dont on a vu des œuvres tout à l'heure, des autres portraits d'elle, il y en a peut-être au moins une dizaine, hein, au moins. Pardon ? Oui, c'est une manière effectivement d'avoir son propre modèle. Dans ces cas-là, c'est pas la peine d'aller en chercher ailleurs. Il y a peut-être aussi autre chose. Enfin, moi, j'aurais deux choses à dire encore par rapport à ça.
C'était pas admise dans les académies.
Souvent, effectivement, en général, hein, elle n'était pas admise dans les académies, dans les écoles.
Hein. Donc, elle voulait se montrer.
Voilà, c'est aussi un peu une manière, c'est un peu une manière de revendication. Hein. Après tout, faut jouer d'écoute. Hein. Et jouer d'écoute, c'est aussi se représenter. C'est un peu une manière, n'est-ce pas, de souligner qu'on existe quand même. On n'est pas dans les académies, ok, ben on se représente. Hein. Ça, c'est une manière. Ouais. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'après tout, les hommes aussi se font représenter. Ils font dire, je ne sais pas pourquoi les femmes se feraient pas représenter, les hommes, oui. Hein. Donc, il y a aussi là une sorte de normalité de la peinture. Hein. Alors voilà, les hommes font des autoportraits, pas tous, mais prenez quelqu'un comme Tintoret, il y a des autoportraits de lui. Hein. Bon, pourquoi est-ce que sa fille n'en ferait pas autant? Il n'y a pas de raison. Hein. Donc finalement, c'est assez normal. C'est normal, mais c'est vrai que dans certains cas, c'est vrai aussi pour la Lavinia Fontana, hein, pas que pour Sophonisbande Ghisola, il y a peut-être aussi une manière, en poussant le trait, de revendiquer sa féminité picturale, en quelque sorte. Hein. En tout cas, ce tableau-là, et si je vous parle de ça à ce moment-là, c'est important, parce que Caritane avant Hemerson, cet autre portrait que vous voyez là, est en fait le premier portrait féminin que l'on connaît d'histoire occidentale. En dehors des peintures de Pompéi que je vous ai montrées tout à l'heure, mais dont on ne peut pas du tout être sûr que ce soit des autoportraits, bien entendu. Voilà. Là, par contre, on est sûr que c'est un autoportrait de Caterina von Hemerson. On est au milieu du XVIe siècle. Eh bien, c'est le premier autoportrait sûr par une femme de l'histoire de la peinture en Occident. Donc, c'est un peu important. C'est bon au niveau du style de cette peinture? Vous saurez reconnaître? Ouais. Eh bien, passons à Clara Peters. Vous en rappelez, on avait parlé un peu de celle-là la dernière fois. Hein? Regardez bien, parce qu'après, il va falloir qu'on caractérise un peu tout ce monde-là. Hein. C'est bon? Très bien. Et là, Judith Lester. Beau, hein? Ah oui, c'est formidable. C'est un très grand artiste, aussi. Hein. Très grand artiste. C'est bon pour vous? Ça marche? Intégrez bien ça, hein. Pas de problème. Ouais. France 17e, on avait cité une personne la fois dernière.
Louise Moyon.
Voilà, Louise Moyon. Hein. Louise Moyon était la peintre femme qu'on avait évoquée. Il y en a une autre que... Alors, pour le 16e siècle, hélas, on est un peu sec. Parce que, à part des noms, mais sans rien derrière... Hein, et encore pas très nombreux, bien difficile de parler de peintres femmes en France au XVIe. Non pas qu'ils n'aient pas existé, on a des noms, mais par contre on n'a rien derrière ces noms, en tout cas pour l'instant. En tout cas pour le XVIIe siècle, il y en a deux, il y en a d'autres, enfin deux qui sont spécialement importantes, Louise Moyon et une femme dont on n'avait pas parlé qui s'appelle Elisabeth Sophie Chéron. Alors Louise Moyon, je vous avais montré une œuvre la fois dernière, voilà une autre œuvre d'elle, ok? Alors, ça n'est pas un autoportrait. On n'a pas d'autoportrait d'elle. Hein. Ça fait partie des exceptions qui confirment la règle. Enfin, on n'a pas, pour l'instant, en tout cas, d'autoportrait d'elle. Hein. OK pour Louise Moyon? Quant à Madame Chéron, la voilà. Alors, ça, c'est un autoportrait. C'est une femme très importante, ça, parce que Elisabeth Sophie Chéron est la première femme peintre à être entrée à l'Académie de peinture et de sculpture. Parce que ce n'était pas si simple que ça. Hein. Et elle va rentrer à l'Académie, c'est pour ça que son portrait est au Louvre. Hein. Et donc, c'est la première femme peintre à entrer officiellement dans le cercle très fermé et très masculin de l'Académie royale de peinture et sculpture. Après, il y en aura d'autres, dès la fin du XVIIe d'ailleurs, mais elle, c'est la première. Et voilà son autoportrait. Ça marche? Oui, ça ne manque pas de... Bon, mais c'est presque fini. Puis c'est très typé. Hein. Et pour un petit peu d'exotisme, je voulais qu'on aille d'une part au Portugal et d'autre part en Angleterre, au XVIIe siècle, pour évoquer deux personnes qu'on n'a pas du tout évoquées la dernière fois. Une anglaise, Mary Beale, très anglaise. Et puis une portugo-espagnole, très portugo-espagnole, qui s'appelle Josefa de Ayala y Cabrera de Óbidos. Hein. Voilà. Vous pouvez l'appeler Josefa de Óbidos, c'est ce que l'on fait généralement, parce qu'il se trouve qu'elle est morte, elle s'est établie à la fin de sa vie à Óbidos, d'où son nom de Josefa de Óbidos. Voilà. Alors, les œuvres de Josefa de Óbidos sont très typées, je trouve. Voilà une œuvre d'elle. Hein? Pas d'autoportrait a priori, hein, mais voilà. Pas mal, hein? Ouais.
Pas de bestiole, vraiment. Contrairement au nordique, il n'y a pas de bestiole.
Ce n'est pas l'heure du dîner encore, hein?
Non, mais du goûter.
Et ça, voilà donc un autoportrait, là on a, de Mary Beale, cette Anglaise du XVIIe siècle dont je vous parlais. Voilà, c'est tout. C'est pas terrible quand même. Hein, voilà notre petit panthéon des femmes peintres qu'il faut connaître, hein, dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles. Et vous allez voir, maintenant je vais vous passer un petit patchwork d'œuvres de toutes ces artistes, et vous allez me trouver sans problème. Oh, mais je suis sûr. Les artistes en question. On commence ? Bien. Et ben voilà, c'est Judith Lester. Hein. Rappelez-vous de Judith Lester, hein. Cette femme qui se représentait tout à l'heure un chevalet et qui d'ailleurs peignait sur son chevalet quelques scènes un peu galantes. Très joli tableau de Judith Lester qui représente quoi ?
Des buveurs.
Des buveurs, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait, au niveau du sujet comme pour la manière, qu'est-ce qui pourrait caractériser la manière de Judith Lester ?
Une truculence.
La manière et le sujet, une truculence, oui. Pardon ?
C'est très vivant.
Très vivant, très dynamique, oui, on pourrait dire ça. Pardon ? Oui, d'ailleurs, ça s'appelle les joyeux, le couple joyeux, je crois. Enfin, oui, les joyeux gris, absolument. Ouais. Ouais. Donc, il y a une dimension comme ça de truculence, de vie, de... Pardon ? Très coloré. Hein. En fait, il y a une sorte de vigueur du trait de la couleur. Hein. Vous l'avez peut-être remarqué dans son autoportrait tout à l'heure. Hein. C'est, ça y va, hein, Judith Lester. C'est, hein. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont recité le nom de l'équivalent masculin de Judith Lester. Franz Hals, absolument. Hein. Franz Hals, c'est... d'ailleurs, un certain nombre d'œuvres de Judith Lester sont au musée Franz Hals de Harlem. Hein. Voilà. La scène qui est là est une scène qui évoque des joyeux buveurs. Ça peut évoquer un peu autre chose. Quoi ?
Une séductrice.
Pardon ?
Une séductrice.
Une
séductrice.
Eh voilà, c'est ça. Hein. On est là quand même dans une scène de maison close. Hein. Mais vous savez que ça, les Flamands, enfin les Hollandais, les Flamands, ça ne pose absolument aucun problème. Hein. Les scènes de bordel, pour être clair, hein, c'est très fréquent, n'est-ce pas, hein. Donc on est là, sans doute, avec une courtisane, n'est-ce pas, et un client. Hein. Mais ce genre de vision joviale de la vie, où on n'en fait pas tout un fromage, si j'ose dire, ne gêne pas du tout. Il y a au contraire une espèce de volonté de rire de cette espèce de chaos de la vie, et voilà. Hein. Donc ce genre de scène est un peu osé. Hein. Voilà, donc une œuvre de Judith Lester dont on a, grosso modo, singularisé la manière. Et ça, à qui ça peut vous faire penser ? Pardon ? Sophronisba ? Why not ? Donc vous penseriez à Sophonisba Anguissola. Vous rappelez le premier autoportrait que je vous ai montré, hein, cette jeune fille très comme ça, très. Hein. Et si vous aviez à caractériser sa manière, son style, vous diriez quoi ?
Vibrant.
Ouais. Sérieux.
Sévère.
Non, elle a l'air pas bête.
Ah, on peut être sévère et pas bête. Enfin, je crois.
C'est allongé comme le Greco.
Ouais. Pardon.
C'est allongé comme le Greco.
Oui, assez allongé, oui.
Souvent des cavailleux dans ces couleurs.
Ouais.
Un grand front.
Alors, je suis assez d'accord avec vous dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on est là devant des couleurs assez chaudes, mais en même temps un peu éteintes. Hein. On n'est pas chez Judith Lester. Hein. On est dans du marronnasse, grisouille et rougeâtre, hein, pour faire vite. Hein. Pardon ?
C'est très monochrome.
Il y a un côté monochrome. Hein. D'accord avec vous aussi pour le côté sérieux. Enfin, ça rigole pas vraiment. Hein. On n'est pas là dans un cabaret à côté d'une maison close. Hein. On est là dans quelque chose d'un peu plus... C'est sans doute une femme d'une bonne famille, comme on dit. Hein. Voilà. En revanche, au niveau de la touche, de la manière, alors vous avez bien dit qu'il s'agissait quelque chose d'un peu, je ne sais plus quels sont les termes que vous avez dit, mais un peu velouté, un peu, etc. Tout ça, c'est vrai.
Oui, mais le support, est-ce que c'est de l'huile ou est-ce que c'est de la tempéra?
Alors, c'est bel et bien de l'huile sur toile, hein, mais il est vrai que la manière rappelle absolument celle de la tempéra.
Oui.
Et quelle est, à votre avis, l'école de peinture qui, justement, a pratiqué l'huile? Mais de manière à singer en quelque sorte la tempéra. C'est une peinture plus mate, plus, qui fait plus penser à de vieilles peintures murales, antiques. Ou... Il y a une école picturale en Europe qui, au XVIe siècle, hein, c'est un peu spécialisée là-dedans. Même. Une école picturale qui a les pieds dans l'eau, si j'ose dire. C'est Venise. En fait, l'œuvre que vous avez là, c'est une œuvre, non pas de Sophonis Bangui-Sola, mais de notre Tintoretta. Vous vous rappelez de notre Tintoretta tout à l'heure? Parce que ce genre de peinture, très monochrome, hein, je ne sais pas si vous avez en tête des œuvres de Titien ou Tintoret, hein, la Scuola di San, hein, à Venise, la Scuola di San Rocco, etc. Vous avez comme ça une sorte de mode, surtout c'est Tintoret, de monochromisme marron magnifique. Hein, mais voilà, et là on est chez Marietta Robusti, tout à fait dans la même chose. Hein, alors que Sophonis Bangui-Sola, vous allez le voir, vous l'avez peut-être senti un peu dans l'autoportrait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait des œuvres très très finies, très précises. Hein, elle a même travaillé la miniature, Sophonis Bangui-Sola. Anguissola, hein. Donc chez Anguissola, on a un trait qui n'est pas du tout dufteux, un peu brumeux comme ça, hein, comme vous voyez là, où il y a un petit côté sfumato d'une certaine manière. Chez Sophonis Anguissola, on est dans la précision. Hein. Là, chez elle, on est dans une technique vénitienne qui est plus, j'allais dire, veloutée. Hein. Et on continue. Facile. Facile, facile.
Non.
Voilà, Josefa de Obidos. Oui, Josefa de Obidos. Hein, absolument. Hein. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette nature morte de Josefa de Obidos? Comme celle que je vous montrais tout à l'heure. Je vous ai montré quoi d'elle tout à l'heure? Ah oui, l'espèce de saladier avec des gâteaux dedans. Hein, voilà.
L'originalité de la composition.
Oui. Oui, et comment est-ce qu'on pourrait... Voilà, hein, peut-être que ce qu'on peut dire, effectivement, caractériser, c'est une sorte de contraste, effectivement. Hein. On a là, effectivement, des objets qui sont posés, qui sont violemment éclairés, mais devant un son complètement noir.
Et très peu de couleurs.
Très peu de couleurs.
Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu.
Non, il y a finalement une gamme chromatique très courte, effectivement. Très organisé, hein. Tout ça est très structuré. C'est pas une espèce de doux chantier où il y a des tas de bazar. C'est très organisé. On a des choses posées les unes sur les autres. Il n'y a pas trop de choses d'ailleurs. Vous savez comment d'ailleurs on nomme ces natures mortes de la péninsule ibérique, hein. En Espagne comme au Portugal, on a une ibérico espagnole, hein. Pardon. Alors, c'est-à-dire que effectivement, en Espagne comme au Portugal, on va donner à ces natures mortes un nom particulier.
Le même qu'aux Pays-Bas ou pas?
Non. C'est un nom espagnol qui ne signifie que ça. Ça s'appelle un bodegón. Le bodegón, los bodegones, ce sont les natures mortes. Parce que les natures mortes espagnoles ou portugaises sont, au XVIIe siècle, toujours comme ça. Enfin, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, vous avez toujours 3-4 objets. Comme vous disiez, c'est très organisé. Quelques objets... fait chaud, n'est-ce pas? Quelques objets, et ces objets très organisés se détachent très violemment éclairés, mais avec des ombres, hein, sur un fond très sombre. Hein. Ça, c'est l'art du bodegón, hein, qui est vraiment un art qui n'a pas d'équivalent ailleurs en Europe. Et Josefa en est certainement. Mais Zurbaran, hein, également fait de superbes bodegones. Hein. Mais là, nous sommes chez Josefa de Ayala de Cabrera de Obidos. Hein. Alors là, la première, c'est qui la première? Sophonisba, joli prénom, hein. Sophonisba Anguissola. Hein. Voilà. Vous reconnaissez, je pense, sa manière par rapport. Vous vous rappelez du portrait, le premier que je vous ai montré tout à l'heure? Hein.
Hein.
Oui, oui. Oui. Oui, vous pourriez singulariser comment ce style, ce travail-là? précision. Hein, voilà. Hein, on est là vraiment dans un travail, oui, très, hein, très, très apprêté, enfin très précis, effectivement. Hein. Alors ça, c'est un des nombreux autoportraits qu'on a d'elle. Je vous disais, il y en a, enfin, je n'ai pas compté, hein, mais il y en a, à vue de nez, au moins une dizaine, hein, des petits, des grands. Et, voilà. Donc, elle s'est beaucoup représentée, jeune, vieille. On a un portrait d'elle très âgée. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, elle a vécu presque 100 ans, hein, Sophonisba. Hein. Elle était très célèbre. Hein. Sophonisba Anguissola est sans doute une des femmes peintres les plus célèbres avant le XVIIIe siècle en Europe. Hein. Elle était très, très célèbre. Hein. D'autant qu'elle a travaillé pour la cour d'Espagne. Et ça. Alors, de qui est cette opulente nature morte? C'est dur de parler de lumière.
C'est celle qui avait fait le...
De celle qui avait... Alors, Moyon. Ou bien... Pardon? Clara Peters. Alors, qui est-ce qui vote pour Moyon? Qui est-ce qui vote pour Clara Peters?
Moyon.
Donc, Moyon, vous rappelez, hein, c'est la peinture que je vous avais montrée où on voyait une scène de marché avec une marchande qui était en train de vendre trois salades à une dame.
Oui.
Vous vous rappelez de ça?
Oui.
Hein, ça, c'était Moyon. Clara Peters, vous vous rappelez du tableau que je vous ai montré?
Les poires.
Non, ce n'était pas les poires.
Des citrons.
Les poires, c'était... D'abord, c'était des citrons. C'était de Garzoni. Voilà, Clara Peters, oui. Voilà, Clara Peters, c'était effectivement une nature morte très précieuse, il y avait beaucoup d'objets, et puis on voyait l'autoportrait de Clara Peters. Hein? Donc voilà, est-ce que c'est de Louise Maillon, celle qui a fait la scène de marché avec la marchande et l'autre, ou est-ce que fait de Clara Peters, celle qui a fait son portrait avec tout un bazar derrière?
Clara Peters.
Qui dit mieux? Moyon, Clara Peters.
Clara Peters. C'est des fromages sans du nord, les poissons, la luxure.
Ah, ça peut s'importer. Et puis Moyon était parisienne. Hein.
Ouais, non, c'est clair.
Alors, à Paris, on apporte du fromage hollandais. Hein.
Non,
aujourd'hui aussi.
La luxuriance de Clara Peters.
Donc, Clara Peters,
ouais, oui.
C'est votre dernier mot?
Ouais, oui.
C'est Clara Peters. C'est mieux que le jeu des 1000 francs, vous voyez. Voilà, donc c'est bien Clara Peters. Alors, comment est-ce que vous pourriez, là aussi, symboliser, caractériser l'art de Clara Peters?
Une abondance.
Une abondance.
Une luxuriance.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Effectivement. Et puis, comment c'est traité?
Très vériste.
Très précis, une espèce de vérité, comme ça. Très organisé, une espèce de comment dire, de d'effervescence organisée. Beaucoup de choses, mais c'est quand même assez. Mais on n'est pas chez Josépha. Josépha, il y a trois trucs, puis c'est réglé. Hein. Là, vous voyez qu'il y a du monde. Hein. Voilà. Sorte d'équilibre, hein, malgré l'opulence. Et puis, alors voilà, c'est ça. Il y a une dimension aussi de raffinement. Rappelez-vous de Josepha de Obidos. En général, elle nous montre trois boîtes en bois, un bout de tasse, un bout de pain, c'est réglé. Hein. Là, vous avez un homard, un crabe, des objets en argent, en cristal, enfin bref, ça coûte de la faïence, voire même de la porcelaine. Enfin, en clair, c'est un peu... convenable. Hein. Alors, on n'est pas dans le fond d'un monastère comme Josepha de Obidos. Hein. Alors, celle-là. Pas mal, hein, quand même. Hein. Tout ça, c'est pas des petits peintres, hein, vous aurez remarqué au passage. Hein. Clara Peters, vous s'alignez. Hein. Katharina van Emessen, c'est ça. C'est une œuvre de Katharina van Emessen. Vous savez, celle dont je vous ai montré le portrait tout à l'heure, qui est le premier autoportrait de femme peinte d'Europe occidentale. Hein. Donc c'est essentiellement une portraitiste. J'ai remarqué que tous ces gens sont largement portraitistes. Hein. Et voilà, vous avez là une œuvre de Katharina van Emessen. Un très beau portrait de femme. Hein. Voilà. Là aussi, vous auriez à caractériser, vous diriez quoi? L'art de Katharina van Emessen, aussi bien son autoportrait que ce portrait-là, qui n'est pas un autoportrait. Ou une sorte de sobriété, c'est vrai.
Très peinte en alliance.
Oui.
Et
Ça arrive.
Plutôt dans le dessin.
Oui, c'est assez dessiné, effectivement. Oui. Oui, il y a la couleur, mais c'est assez dessiné, effectivement. Il y a une précision, hein. C'est vrai.
Les mains.
Oui.
Il n'est pas très gai.
Non, c'est il y a une sorte de, comment dire, de sobriété un peu austère, voilà, un peu austère. Hein, austère. Et c'est vrai aussi par rapport au fait qu'il n'y a pas 3000 couleurs, ça n'expose pas, c'est pas un feu d'artifice. Hein. Voilà.
Elle regrette d'être mariée, hein.
Oh, pas sûr. C'était une manière grande de nous montrer qu'elle l'est. Voilà. Ou qu'elle va l'être, ou qu'elle vient de l'être, enfin, que sais-je encore, hein. Voilà. Non, c'est peut-être un... Moi, je pense pas que... elle est un peu sérieuse, mais enfin, on n'est pas obligé de se bidonner devant le peintre, hein. Il y a peut-être aussi une chose sur laquelle, moi, j'insisterais, que vous n'avez pas évoqué. Oui. Alors, oui, alors c'est vrai qu'elle regarde, hein. Donc, voyez, il y a comme ça une prise du spectateur, c'est vrai, hein. Vous disiez aussi quoi, pardon ?
L'ombre.
Oui, alors c'est vrai que c'est... on voit effectivement l'ombre, hein, il y en a une là, mais il y en a une là derrière. Peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a quand même une volonté de réalisme assez poussée. D'ailleurs, peut-être vous l'avez remarqué dans son autoportrait tout à l'heure. On a l'impression que si elle avait un gros bouton sur le nez, il y serait, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout... Alors là, il se trouve que c'est une jeune fille charmante, bon, mais ce serait un gros laidron, ce serait pareil. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sincérité, hein, dans la peinture, qui fait qu'on n'est pas là dans une sorte de vision idéale. D'ailleurs, il y a une ombre, alors on la met, on ne va pas la cacher. Parce qu'un peintre, il peut faire ce qu'il veut, c'est pas comme un photographe. Hein. Un peintre, il fait ce qu'il veut. Un photographe, il ne peut pas. Hein,
fait. Mais un fond éclairé.
Pardon, oui, oui, oui.
Oui.
Elle touche effectivement sa bague. Alors, encore une fois, c'est peut-être une manière, c'est peut-être un portrait fait à l'occasion d'un mariage. Elle vient de se marier ou de se fiancer. Elle est donc là, elle le montre, mais d'une manière à la fois détachée et très naturelle. Hein. Elle n'est pas là à montrer sa bague, elle ne le montre pas non plus. Voilà, c'est donc une sorte de geste naturel. On fait tout ça, hein, quelque part. Comme vous dites. Voilà.
Marie-Madeleine,
absolument. Hein. On change. Hein. C'est pas tout à fait le style de la précédente. Hein. Alors, c'est de qui, ça ?
C'est la fille en bleu, là.
C'est là ?
Celle qui était en bleu, qui avait une drôle d'allure.
La fille en bleu. Ah, l'anglaise. L'anglaise de tout à l'heure, c'est ça ? L'anglaise de tout à l'heure ?
Non.
Mary Bill ? Mary Bill ?
Oui, je pense que c'est...
Petite Sainte-Madeleine de Mary Bill ? L'anglaise ?
Non,
pas l'anglaise.
Italienne ?
Mais quelle italienne ?
Ah, voilà, laquelle ?
Et voilà laquelle ? Oh, on n'a pas vu qu'à 40.
Il en reste 3.
Non, oui. Ah, mais j'ai pas forcément mis ça dans un ordre. Hein. Il peut y avoir des pièges, vous savez. Hein. Rappelez-vous des... Alors, vous dites italienne. Vous avez raison, c'est d'une peintre italienne. Mais laquelle ?
Giovanni ou Garzoni ?
Alors, il y a Giovanna Garzoni. On a vu quoi de Giovanna Garzoni tout à l'heure ? Pardon ?
Ça ressemble au citron.
Des citrons, voilà. Alors, est-ce que c'est du même artiste ?
Ça pourrait.
Non. C'est pas de Giovanna Garzoni. Non,
pas de citron.
Voilà. Robusti, c'est Tintoretta. C'est la deuxième. C'est effectivement de Elisabetta Cirani. Hein. Elisabetta Cirani, voilà une œuvre d'elle qui représente, vous l'avez dit, Sainte-Madeleine. Hein. Voilà. Alors là, on est dans un style, si vous aviez à définir ce style-là, vous diriez quoi ? Oui, c'est à Besançon. C'est un mot que j'ai bien connu. Très près. J'ai dirigé une vieille de Besançon. C'est même moi qui ai sorti cette peinture de réserve. J'aime beaucoup ça. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, vous diriez que c'est... ça correspond à quel courant artistique ? Oui. Oui, on est même plus tard.
Hein.
Alors,
un peu.
Ouais, mais post-maniériste, je dirais. Hein. et dans un corps artistique qui regardait par exemple le chromatisme ou ce qui se passe, enfin.
Justement, très coloré.
Quoi. Très coloré.
Il y a la grande,
très, très, très coloré.
Vif, très
coloré. Ben, on est dans le baroque.
Oui,
on est devant une œuvre tout à fait baroque. Hein. Elisabetta Sirani, c'est un... Vous vous rappelez son autoportrait tout à l'heure, hein. Elle se présentait déjà avec une coiffure, avec des tas de choses dedans, il y avait une couronne. Elle était devant son chevalet, enfin voilà. C'est-à-dire qu'on est là devant du baroque. Hein. Baroque au niveau de la présentation, vous avez une femme à moitié nue devant vous, quand même.
Hein.
Baroque dans les attributs, regardez ses vêtements, n'est-ce pas, qui ont un rôle presque autonome, regardez les couleurs, on a du rose, elle est rousse, enfin, vous voyez, on est là dans une sorte d'explosion colorée, c'est pas Katharina van der Messen. Hein. Voilà. Donc on est chez une artiste baroque. Alors là, je vous repasse beaucoup, hein, de l'article d'ailleurs. Maintenant, ça doit fuser de tous les côtés. Ça, c'est de qui? Oh, vous savez ça par cœur.
Mais oui, c'est
Judith
Lester.
C'est qui, ça? Ah, voilà, c'est Judith Lester. On est d'accord, hein? Judith Lester, la copine de Franz Sachs, enfin, la prof de Franz Sachs. Hein? Voilà, hein? Judith Lester, celle que vous avez vue à son chevalet, celle qui nous emmenait dans une maison close tout à l'heure. C'est la même, hein? Voilà, Judith Lester. Et ça, ça c'est qui, ça?
Louise Moyon.
La profusion, mais c'est qui la profusion? Enfin, je veux des noms, des noms. Allez, ah mais faut s'en rappeler, hein. Allez, allez, des noms. Il y a une interro tout à l'heure, et moi je prendrai toutes les notes. Hein. Alors c'est qui, ça? Clara Peters, absolument. Hein. Vous êtes là devant une œuvre de Clara Peters. Profusion, mésorganisation, objet rare, une faïence, un étain, du cristal, des monnaies, n'est-ce pas, hein. Tout ça évoque un peu la vanité aussi. Hein, voilà, hein. Donc c'est Clara Peters, absolument. Je voulais passer la dernière fois. Donc vous savez tous qu'il s'agit d'une œuvre de Lavinia Fontana. Lavinia Fontana, on pourrait la confondre un peu avec Sophonis Banghisola. Vous vous rappelez Sophonis Banghisola, hein? Le premier portrait que je vous ai passé, très précis, très miniaturiste. Hein? Eh bien, Lavinia Fontana est quasiment de la même génération. Et vers moi, elle fait des œuvres qui sont assez proches, mais un peu plus, comment vous dire, j'allais dire un peu plus éteintes que Sophonis Banghisola. Hein? C'est marron, on a quelque chose d'un peu moins effervescent. Facile. Facilissime. Il n'y en a pas 40 parmi les femmes que je vous ai montrées. Hein. Hein, il y a 5 italiennes, 3 nordiques, 2 françaises et 2 autres. Il n'y a pas de quoi se tromper. Qui est-ce qui a fait ça? Pardon? Non. Oh, Josefa, qu'est-ce qu'elle fait, Josefa? De nature morte. Hein? Josefa, elle fait de nature morte avec 3 boîtes et un bout de pain et un morceau de fromage limé. Il vous fait par les souris. Hein? C'est quoi ça? C'est Judith Lester, évidemment. Hein? Voilà. Elle nous emmène encore dans je ne sais quelle taverne plus ou moins bien famée, où deux types sont en train de se saouler. Seulement derrière, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben voilà, il y a un squelette. Hein? Parce que chez les Hollandais, il y a toujours ça qui traîne quelque part. On rigole, mais peut-être pas pour longtemps. Voilà. Donc c'est Judith Lester, évidemment, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ça ne va pas être une Italienne. Hein. Même pas notre Elisabetta Sirani baroque, après tout. Hein. C'est forcément Judith Lester.
Mais elle est naturellement de l'autre, non?
De l'autre. Laquelle autre? Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser à Clara Peters. Quoi, hein. Mais on pourrait penser à quelqu'un d'autre. Eh bien, voilà. On pourrait penser à Josefa de Obilos. Et c'est Josefa de Obilos. Hein? Vous n'avez pas l'espèce de luxuriance, vraiment, j'allais dire, effervescente de Clara Peters. Regardez, on est dans l'action de Marona, c'est un bodegone. Hein? l'Espagne, avec cette idée, cette espèce de noble âpreté, n'est-ce pas ? Peters avec ses ors, ses argents, qui rutilent, ça c'est du Nord. En Espagne et au Portugal, non, n'est-ce pas ? Imaginez que vous êtes dans le fond de quelques monastères de Castille, et voilà ce que vous voyez, n'est-ce pas ? Parce qu'on a quand même des petits gâteaux dans les monastères de Castille. Simplement, ils sont dans de vagues boîtes en bois, n'est-ce pas ? Pas dans des compotiers remarquables. Hein? Donc on est, oui, là il y a quand même deux trois petits objets convenables, hein? Mais enfin ça reste relativement limité. Ça c'est un truc un peu spécial. Là c'est un peu une chose trappe, hein? C'est un petit piège. Un petit piège. Oh, je vais vous le dire parce que c'est un peu compliqué. C'est de la Lavinia Fontana. Lavinia Fontana a fait, comme Sophonis Bangui-Sola, encore une fois, toutes les deux, on peut les confondre. Hein. Elles ont fait une vidéo de beaucoup de portraits. Il y en a une qui a fait des portraits, rappelez-vous, la première, hein, Sophonis Bangui-Sola, des portraits très précis, hein, très miniaturés, d'accord ? La deuxième fait des choses un peu plus âpres, dirons-nous. Hein. Mais il se trouve que Lavinia Fontana a également fait quelques scènes qui sont tirées de la mythologie, etc. Par exemple, ce que vous voyez là, hein, une Minerve s'habillant. Hein. Finalement, une scène très liée à la Renaissance. On est là au début du XVIIe, mais la Renaissance vit ses derniers feux. Hein. Et vous avez là quelque chose qui fait beaucoup penser à l'art de la Renaissance, et Lavinia Fontana surfe sur les dernières vagues, en quelque sorte. Hein. Voilà. Mais revenons à des choses.
Louise Moyon.
Alors, c'est Louise Moyon. Ouais, ça, c'est Louise Moyon. Louise Moyon, vous savez, c'est celle qui a fait La Marchande de tout à l'heure. Vous vous rappelez, hein ? C'est celle qui a fait donc, cette femme qui est en train d'acheter trois salades à sa marchande. Alors, on aurait pu penser à Garzoni. Vous allez voir que Garzoni, c'est un peu différent. Louise Moyon, comment vous caractérisez ça ? Ben, je trouve qu'il y a une manière assez simple de caractériser. Pardon ? Simplicité. Non, très peu. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve, ça n'engage que moi. Hein. Et je trouve qu'on est à égale distance entre Clara Peters et Josefa de Ovidos. On n'est pas du tout dans l'espèce d'immense effervescence de Peters, mais en même temps, tout ça est très précis, très, etc. Et en même temps, il y a une sorte de rudesse, de rugosité, qui est celle de Josefa de Ovidos. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'effet inouï, etc. Hein. On est là dans quelque chose qui est typique de Louise Moyon. Quoi, hein. On verra une œuvre d'elle tout à l'heure. Donc ça, c'est une œuvre très typique, magnifique, hein, de Louise Moyon. Hein. Par parenthèse, vous voyez que tous ces artistes ne sont pas secondaires. Hein, et on ne les connaît pas. C'est quand même fou. Je veux dire, c'est inouï quand même. On ne les connaît pas. Hein. Or, vous avez là des artistes fondamentaux. Qu'est-ce qui fait qu'on connaît Vermeer et pas Louise Moyon ? Enfin, vous comprenez, vous ? Moi, pas. Eh bien, il faut connaître Louise Moyon. Voilà. Et les autres, hein, je ne parle pas que d'elle. Et ça, c'est pas inouï, ça ? Et c'est qui, ça ? Il n'y en a qu'une pour faire ça. Eh bien voilà, c'est Judith Lester. Vous voyez que maintenant, ça y est, c'est parti. Vous allez la reconnaître les yeux fermés. C'est évidemment Judith Lester. Mais alors toujours, n'est-ce pas un type qui est en train de jouer la sérénade dans quelques bas-fonds de Harlem, peut-être, hein, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle représente ça dans une sorte de clair-obscur nocturne, et il est éclairé à la bougie. Hein. Mmh. Vous savez que d'autres gens en Europe font ça à la même époque. Hein. Mais c'est quand même assez... En plus, elle est éclairée par le bas, ce qui crée cet effet d'ombre porté assez curieux. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très original. Mais rappelez-vous nos deux gars de tout à l'heure qui buvaient avec un squelette. Hein. Mmh. On est quand même dans une... chez un artiste fort. Hein. Il y a du répondant chez Judith Lester. Et ben voilà. Sophonis Bangui-Sola, voilà, vous l'avez dit immédiatement. C'est pas son autoportrait, mais ça nous rappelle l'autoportrait que vous avez vu tout à l'heure, la première que je vous ai montrée. C'est Sophonis Bangui-Sola. D'accord. Oui, on reconnaît cette manière très précise, regardez. Hein. Voilà. Des yeux. Pourquoi il y a un chien ?
L'éducation. Voilà. Hein, et l'éducation.
Voilà, hein, ça c'est un petit rappel de l'atelier précédent. Le chien n'est pas là que pour faire joli, encore qu'un chien, ça fait c'est toujours joli. C'est bien sûr l'image de la fidélité. Hein. Le chien, mais c'est aussi l'image de l'éducation, je me rappelle. Hein. Hein, le chien dans les portraits d'enfants, comme l'oiseau dans les portraits d'enfants, c'est l'image de l'éducation. Un chien, ça s'éduque un enfant aussi.
Ça, c'est...
Alors pour l'instant, on n'a rien vu d'Artemisia, mais je vous la réserve, peut-être pas pour aujourd'hui, mais pour la prochaine fois, Artemisia. On aura notre quart d'heure d'Artemisia, je vous le promets. Parce qu'elle m'en vient ainsi. Mais c'est pas elle. Alors si c'est pas Artemisia, il n'y en a qu'une.
Cyrani.
C'est une œuvre d'Elisabetta Cyrani. Cléopâtre, pourquoi Cléopâtre? Pourquoi est-ce que c'est Cléopâtre et pas... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, si vous voyez suffisamment. Voilà, exactement. Elle est en train de faire tomber une perle dans une tasse dans laquelle il y a du
vinaigre.
Pourquoi?
Parce qu'elle avait fait le pari.
Exactement. Racontez-nous l'histoire.
Oh, bon, elle avait tout simplement parié avec Antoine qu'elle ferait le repas le plus cher possible. En une seule fois.
Absolument. Et donc, elle l'a fait en montrant à Antoine, elle prend une perle qu'elle avait en boucle d'oreille, hein, une perle sauvage, hein, une vraie perle chère, et elle la plonge dans une coupe de vinaigre, et moi, j'ai jamais fait l'expérience, mais j'ai pas beaucoup de perles. Voilà. Maman, faut qu'on essaie. Et donc, voilà. Encore, je suis pas sûr que... une perle à la maison, bon, enfin, c'est un problème. Mais bref, normalement, si on fait tomber une perle dans du vinaigre, elle est dissoute. C'était donc une manière de montrer que cette perle qui valait très très cher, hein, ben, elle pouvait s'en passer, parce qu'après tout, elle s'en paierait d'autres. Hein. C'était pour impressionner Antoine. Hein. Et elle a bien réussi d'ailleurs. Sophonisba. Absolument. Voilà Sophonisba qui se lave. Vous savez qui elle représente? Ah bah oui, c'est marqué. Ce sont ses sœurs. Parce qu'elle avait toute une tripotée de sœurs, dont plusieurs sont aussi devenues peintres, mais ont eu des carrières beaucoup plus courtes. Hein. Voilà, et donc c'est les sœurs de Félisba. Hein. Superbe tableau, milieu 16e quand même. Hein. Moi je trouve ça très impressionnant pour ma part. Hein. C'est quand même extraordinaire. Hein. Voilà, un extraordinaire tableau de cette femme artiste, je trouve complètement ignorée, ce que je vois pour ma part incompréhensible. Oui. Alors là.
C'est le flou.
Mais ça ne dit pas son nom. Pas celle qu'on préfère, c'est un nom. Ah voilà, c'est Mary Bill. Voilà Mary Bill. Hein? Mary Bill était une peintresse de la cour d'Angleterre. Hein. Elle a travaillé avec Sir Peter Lely. C'est donc une femme très convenable. Hein. Vous avez là un des deux grands portraitistes d'Angleterre du 17e. D'ailleurs, cet autoportrait, la National Portrait Gallery à Londres. Un lieu tout à fait convenable. Hein. Eh bien, c'est Mary Bill, très belle artiste, femme, hein, officielle de l'Angleterre du 17e. C'est marrant, ça, hein. Et c'est de, évidemment, c'est qui? Ça, vous savez.
Katharina
Van Emessen, exactement, c'est elle. Hein. Vous reconnaissez ce côté, voilà, les... Alors oui, il se passe toujours au niveau des mains, mais surtout, ce que vous reconnaissez, je crois, c'est le caractère réaliste sans concession. Hein. Cette femme est présentée telle qu'elle est. Hein. Alors là, le fond est noir, ok. Ça participe de la sobriété, hein. Mais je veux dire qu'elle est représentée avec le visage tel qu'il est. Quoi. Donc cette espèce de sincérité jusqu'au petit chien qui est bien sincère aussi. Hein. Ça vraiment, c'est très elle. Hein. Superbe artiste, hein. Magnifique. Facile. Ça, c'est facile. Ça doit vous rappeler quelque chose. Oui, le marché tout à l'heure. C'était qui? Oh, on en a parlé. Allez. Un petit effort. Il n'y en a pas 50. Eh bien si, c'est Louise Moyon. C'est Louise Moyon. Je vous ai remontré tout à l'heure Louise Moyon. Vous savez, la marchande, là. Hein, voilà. Hein. Louise, tout ça, vous les connaissiez maintenant, attention. Hein. Il s'agit de Louise Moyon, n'est-ce pas? Notre naturmortiste femme française, elle n'a pas 50, hein. Alors il faut la connaître, c'est la seule. Hein. Naturmortiste femme au XVIIe siècle en France, Louise Moyon. Hein. Un tableau qui est d'ailleurs la propriété d'un musée à Washington, qui est un musée spécialisé dans les créations féminines. Hein. Les Américains n'ont pas l'équivalent pour ce genre de lieu. Hein. Voilà. Et ça...
Ça, c'est Philippe II.
C'est Philippe II, absolument. Et donc, le portrait que vous avez là est de qui?
C'est l'Espagnol.
Alors, soit c'est l'Espagnol,
enfin,
notre fameuse Catarina de Obidos,
non, ça peut être
soit c'est...
Hollandaise.
Non, mais il n'y a pas des Italiens qui sont allés là-bas.
Si.
Ou si, ben c'est.
Mais...
Pardon.
Titien qui est allé.
Sophonisba. Absolument. C'est une œuvre. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas trop souligné pour ne pas vous. Hein, mais pas... c'est une œuvre de Sophonisba Anguissola qui représente Philippe II. On l'avait vu la dernière fois.
Il n'a pas la toison d'or.
C'est bien possible que si. Non, c'est un petit pompon.
Un pompon ?
Oui, c'est un petit pompon. Mais c'est vrai que ça fait... Ce serait normal pour Philippe II. Hein, voilà. Mais voilà, Sophonisba Anguissola a été, je vous l'ai dit, très célèbre. Hein. La cour d'Espagne l'avait fait venir en Espagne. Hein. Vous avez pas là une vague artiste qui peignait dans le fond d'un atelier que personne ne connaissait. Hein. Vous avez là une des artistes qui était dans l'Europe du Sud les plus en vue du temps. Hein. De Sophonisba Anguissola, elle a été à la cour d'Espagne, avait une pension de la cour d'Espagne. Quand elle est revenue en Italie, en Sicile, elle était toujours payée par la cour espagnole. Attention, vous avez là une femme installée, hein, devant un carrière est très officielle. Hein. Facilissime. Josefa de Obidos. On est d'accord. Hein. Sauf que c'est Clara Pétence. Fallait de temps en temps quand même que je fasse quelques petites choses trafes. Hein. Ah oui, c'est pas sympa de ma part, je sais bien. Bon, enfin, je peux pas m'en empêcher. Mais donc, vous voyez que quelquefois, nos beaux schémas, ils ont des... Hein. Mais bon, vous connaissez quand même des fromages bien, bien du Nord. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que Clara Pétence sait aller quelquefois vers des... Voilà, c'est un rustique de bon aloi. Hein. Voilà. Vers Joseph.
C'est la même qui a fait
le portrait. Non. C'est un peu trop... Van Emessen. Katharina Van Emessen. Cette sorte de... Toujours de rudesse. Hein. Alors, c'est pas la jeune fille qui touche sa bague de tout à l'heure, mais on est vraiment dans la même sincérité un peu brutale.
Louise Moyon.
Louise Moyon. Voilà, Louise Moyon.
C'est hein. La même pêche. Hein. La même... Voilà.
Vous voyez, on n'est pas devant la rudesse monacale de Josepha, mais pas devant l'espèce de luxuriance de Clara Pétence. Sauf que parfois, Clara Pétence nous étonne. Les peintres savent nous étonner, vous savez. Louise Moyon. Et Clara Pétence, voilà. Hein, on voit vraiment la différence, quand même. Hein. Ça, c'est vraiment du Clara Pétence tout cuit. Hein. Voilà, ça c'est Garzoni, vous l'attendiez celle-là, hein, voilà. Ça c'est Garzoni, vous savez celle des citrons de tout à l'heure, comment vous qualifieriez d'ailleurs ce travail-là? Oui, quelque part c'est dessiné. Hein.
On dirait presque une aquarelle de fait.
Oui, absolument. Alors c'est effectivement soit travailler à la tempéra, soit à l'aquarelle, et surtout elle travaillait non pas du tout sur la toile, ni même sur du papier, elle travaillait sur du parchemin.
Ah oui, c'est plus fin. C'est beaucoup plus fin.
Beaucoup. Donc ça donne cette espèce de côté presque un peu dufteux, très fin. Vous voyez là, c'est très très particulier. Hein. Elle a d'ailleurs été extrêmement célèbre à cause de ça, hein, Giovanna Garzoni. Hein. Mais vous voyez là, c'est un style inimitable. Hein. On la confond à personne d'autre. Hein. Mais elle représente des trucs très basiques, trois haricots, puis c'est réglé. Hein. Évidemment. C'est qui, ça? Il n'y a pas 300 solutions, de toute façon. Judith Lester?
Non.
Non. Josepha?
Non.
Sophonisba?
Non.
Katharina?
Non.
Non. Alors, il reste qui?
Sirani.
Elisabetta Sirani. Elisabetta Sirani, bien sûr. Hein, nous sommes dans le baroque. Hein. Qu'est-ce qui se passe, là? Portia se blessant la cuisse, c'est quoi, cette histoire? Vous connaissez ça?
Non.
Je vous raconte l'histoire? Elle est rapide. Portia est la femme de Brutus. Donc vous savez qu'il a commis un petit crime au passage, puisqu'il a été de ceux qui ont tué César. Hein, voilà. Et pour montrer qu'elle aussi, n'est-ce pas, était déterminée, qu'elle n'allait pas se laisser impressionner par je ne sais quoi, qu'elle n'était pas une faible femme, elle a un jour, devant son mari, pris un couteau et s'est percé la cuisse. C'est ce qu'elle est en train de faire, sans souffler mot, n'est-ce pas. Elle domine absolument sa douleur. Quelqu'un dont nous n'avons guère parlé, à part son autoportrait tout à l'heure.
C'est pas l'anglaise.
Alors, c'est pas l'anglaise, Mary Beall. C'est l'autre, et qui n'est pas anglaise, dont nous n'avons pas encore vu d'autres œuvres. Pardon ? Chéron. Chéron, exactement. Hein. Un très beau tableau du musée Condé à Chantilly, qui est peut-être d'ailleurs son autoportrait, ou peut-être le portrait d'une femme, on ne sait pas. En tout cas, représenté en bergère. Hein. Vous savez que au Moyen-Âge, en Antiquité, et même après, le berger, la bergère, c'est l'homme le plus heureux qui vit dans la nature. Hein. Et donc, quand on se fait représenter, je vous le dis pour votre prochain portrait, faites-vous présenter avec des moutons. Parce qu'on verra que vous êtes berger ou bergère, et vous avez compris que la nature, c'est le bien le plus important. Depuis l'Antiquité, on nous le dit. Il faut finir par le croire. Hein. Voilà. Une nativité. Qu'est-ce qui a pu faire cette âpre activité nocturne, digne de quelques cavernes ? C'est Joséphin. Hein. Là, vous n'avez pas un compotier avec trois bouts de pain émietté. Vous avez la nativité du Christ. Mais c'est pareil. Hein. Vous voyez, finalement, ce même clair-obscur, très rude, n'est-ce pas ? On sent bien, encore une fois, cette peinture de monastère. Hein. C'est Josépha de Obidos. D'accord ? On en a encore, je ne sais plus. Ah oui.
C'est
pas la messe. Non, c'est un peu trop, j'allais dire, trop joliet pour Emerson. Emerson, vous auriez cette personne, bon, il n'y aurait pas tout le bazar derrière. Hein. Elle serait devant un mur, il y aurait son ombre, il y aurait son âge, peut-être, d'ailleurs. Voilà, c'est Lavinia Fontana. Absolument. On est avec Lavinia Fontana. C'est proche de Sophonisba Anguissola. Encore une fois, vous voyez le lien. Hein. Mais Sophonisba serait plus radical, si vous voulez, hein, plus précise. Là, on sent qu'on se laisse un peu aller à des choses autour, etc. Hein.
Louise Moyon.
Oui, Louise Moyon. Hein. Vous voyez, c'est pas Clara Peters, c'est un peu trop simple. C'est pas Josepha, c'est un peu trop compliqué. On est dans l'entre-deux, on est dans Louise Moyon. Et ben voilà. Ben, je vous propose qu'on s'arrête là, parce que j'avais préparé quelques petites diapos avec Artemisia, que vous attendez tous. Et ben ce sera pour la prochaine fois. Voilà.
Merci.
Donc, rendez-vous la semaine prochaine et on commencera avec Artemisia.